Oui, bonsoir. Moi, ça me fait penser à un très beau film italien qui s'appelait Une si longue absence, qui est un homme, George Wilson, qui est, on pense, amnésique, et une femme tente de le ramener à ses souvenirs. C'était peut-être son mari, et il danse. Et on reste toujours sur l'interrogation, on ne sait pas finalement ce qui se passe, quoi. C'est très troublant.
Oui, c'est un très beau film de Henri Colpi, qui est un cinéaste français, par ailleurs. Mais peut-être, je crois qu'il l'a tourné en Italie, oui. Une aussi longue absence. On est en train de parler d'un film des années, fin des années 50.
Est-ce que vous pensez que le fait d'être moine, par exemple, ça relève de la même dynamique ?
Oui. Oui, on pourrait dire d'ailleurs que dans nos sociétés, il y a longtemps eu des espèces de voix culturelles chez des hommes ou des femmes qui avaient envie de silence, d'effacement, d'humilité, de discrétion, etc. Et donc on pouvait devenir moine, on pouvait devenir monial, on pouvait, et donc du coup on vivait dans un monastère, dans une abbaye, et puis on était enclos en quelque sorte dans un dialogue permanent avec Dieu. Et je pense que c'était effectivement une manière de disparaître aussi, dans une sorte de plénitude en revanche, mais de se défaire complètement de toute son identité personnelle, oublier radicalement la personne qu'on était. Mais aujourd'hui, on ne dispose plus du tout de ça. Les monastères sont réassignés à d'autres tâches, les abbayes ferment, etc. Il y a de moins en moins de vocations. C'est de plus en plus insolite d'être moine ou d'être monial. Je sais pas. Ah oui, là, je n'ai aucune idée. Mais pas l'impression, non. Non, malheureusement, les tentations de spiritualité vont plutôt vers un moment qu'autre chose. Vers des formes. Je disais que la quête de spiritualité était plus associée en ce moment au djihadisme et au désir d'égorger les autres que de... Je sais pas. Moi, ce qui m'a troublé, j'en ai discuté avec ma prof de yoga, on se disait dans les années 60-70, enfin plutôt dans les années 70 et début des années 80, c'était l'époque des chemins de Katmandou. Hein, c'était les chemins de l'Orient, qu'avaient d'ailleurs chanté des gens comme Hermann Hesse, l'écrivain allemand. Donc il y avait une quête de spiritualité, mais qui se faisait dans la paix, dans un désir de communion avec le monde, une vision quasiment cosmologique. Et on se disait qu'aujourd'hui, il n'y a plus... Enfin, on peut partir en Inde, mais en tous les cas, plus du tout avec la même... cette espèce d'épidémie incroyable qui a saisi le monde occidental pendant une bonne dizaine d'années. C'est l'époque où moi, je partais au Brésil, j'étais complètement à contresens. Je me souviens d'amis qui partaient vers Katmandou, vers l'Inde, et qui souvent d'ailleurs disparaissaient parce qu'ils ne rentraient plus jamais, ou ils mouraient d'ailleurs. Ils pouvaient mourir en cours de route, ou alors ils se perdaient dans la drogue à Goa ou à Katmandou. Mais d'autres trouvaient des formes de spiritualité, à l'image d'ailleurs du fils du philosophe Mathieu Ricard, voilà, qui sans doute est à peu près de cette génération-là. Et, voilà. Mais c'est plus rare. Il y a Alexandre Jolien qui est parti lui aussi à son tour. Mais c'est, finalement, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Voilà. Et j'ai peur qu'aujourd'hui on soit plutôt, non pas dans des formes de spiritualité, mais de religiosité qui sont extrêmement agressives envers les autres. Et on n'est plus du tout dans les mêmes logiques. Voilà. Donc je ne suis pas très sûr que vous ayez raison, qu'il y ait des vocations importantes du côté du monde chrétien, en tous les cas, pour parler vite. Mais j'espère que je me trompe. Oui. Oui, on parle de Rimbaud. Moi, je pense que Rimbaud, effectivement, était mal dans sa peau. C'était un adolescent tourmenté, en plus qui vivait certainement très mal son homosexualité et autres. Donc, je crois qu'il a essayé, effectivement, d'échapper à travers la poésie aussi, d'échapper à sa personne et essayer de se reconstruire. C'est Nicolas Bouvier qui a dit une phrase qui me va aussi comme un gant, mais j'aime énormément Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier a dit « L'écriture et le voyage sont deux exercices de disparition. » Voilà. En d'autres termes, quand on écrit, effectivement, on entre complètement dans un autre monde. On est dans une sorte de transe dont on se réveille des fois une demi-heure, une heure après. Et on se dit, bon sang, il est cette heure-là, je n'ai pas vu le temps passer. Voilà. Encore plus, évidemment, bon, moi je vis ça même en sociologie ou en anthropologie, mais imaginez des écrivains qui suivent des personnages et qui vont les suivre. Il y en a qui les suivent pendant 10 heures tous les jours. Et qui se lèvent à l'aube et qui vont manger à 2 heures après avoir écrit 10 pages, 15 pages. Effectivement, ils disparaissent complètement dans leur personnage. Ils ne sont plus là, il n'y a plus personne. D'ailleurs, ils ne veulent pas qu'on les dérange. Et puis le voyage est aussi une autre manière, au-delà de la marche. Finalement, on voyage aussi souvent pour brouiller les pistes derrière soi, être dans des lieux tranquilles. Enfin, on peut choisir le tourisme de masse et puis d'ailleurs préférer aussi marcher avec des groupes, etc. Bon. Mais il y en a énormément d'entre nous voyagent aussi pour rechercher la paix, la tranquillité, la distance, l'exotisme, etc. Et Bouvier l'a fait de façon sublime, évidemment, en écrivant des livres magnifiques, en étant à la fois un grand voyageur et un immense écrivain par la même occasion. Donc l'écriture chez Rimbaud, pour moi, était aussi une manière de disparaître. Et puis en plus, avec c'est pas très matérialiste, je sais pas comment dire. Il y a plein d'échappées belles, quoi. Il y a plein de mondes dans le monde de Rimbaud. Oui. Rimbaud n'est plus rien. Après son voyage en Afrique et autres. Ah oui, en même temps, ce sont des voyages. On peut dire que quand Rimbaud est parti en Afrique et quand il a cessé complètement d'écrire, il était aussi dans un autre exercice de disparition, pour parler comme Nicolas Bouvier. Hein. Ça lui a pas très bien réussi puisqu'il est revenu amputé, enfin invalide, et qu'il est mort extrêmement. Mais je pense qu'il y a une continuité dans l'existence de Rimbaud, des fugues de son adolescence jusqu'à son départ en Afrique pour aller vendre des armes en Abyssinie dans des conditions absolument incroyables, en vivant de façon vraiment comme un chien d'une certaine manière, et puis rentrant en France malade, paumé, puis disparaissant extrêmement jeune.
Je vais te poser une question.
Bonsoir. Imaginons que demain j'ai envie de faire l'expérience de disparaître un mois. Quand je vais rentrer, je vais être par exemple viré de mon école ou de mon travail. Je vais avoir des factures impayées. Je vais être passé dans tous les journaux parce que j'ai disparu, etc. Donc est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour un jeune, disparaître c'est encore possible?
C'est une question très lourde, la vie. Ben, malheureusement, il y en a un certain nombre qui disparaissent dans le djihadisme, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc eux, ils se posent pas la question du retour. Mais effectivement, je pense que c'est pas facile. Enfin, encore qu'il y ait quand même des dizaines de milliers de jeunes en errance qui sont parfois mineurs en plus, hein, mais qui ont fait le choix effectivement de refuser l'école, de refuser les diplômes, de refuser leur famille ou leur belle famille. Et donc, ils acceptent de vivre une vie de marginalité, entre guillemets, qui est quand même extrêmement âpre, extrêmement violente aussi, d'une certaine manière. Le monde des squats n'est pas du tout un monde toujours très fréquentable. Il y a des squats libertaires qui sont autogérés, etc., qui sont des lieux sans doute de vie formidables. La plupart des squats sont des lieux d'extrême violence, pour les filles notamment. Mais ils vont disparaître, ceux-là. Par contre, vous ne pouvez pas disparaître si vous continuez à rester à l'école, avec vos parents et tout ça.
Mais justement, on a l'impression que si on disparaît, on sort du système, oui, et on n'a plus la chance de pouvoir y rentrer, par exemple. Et tous les rêves de carrière, etc., c'est terminé.
Ah ben, le rêve de carrière, si vous avez choisi l'errance, oui, parce que de toute façon, vous allez être déscolarisé. Donc vous n'allez pas avoir les diplômes qui vont vous permettre de trouver, enfin, d'obtenir un emploi à un bon niveau, etc. Vous risquez, à moins que vous ne soyez incroyablement créatif, et puis que vous ayez des parents qui puissent vous prêter de l'argent ou autre, vous aurez du mal à créer votre propre entreprise ou à vous en sortir. Sauf si vous êtes écrivain, chanteur, poète, ou je sais pas quoi. Poète, non, ce serait pas. Je crois pas que vous gagneriez beaucoup, mais. Voilà, donc effectivement, c'est un choix de vie d'une certaine manière. Mais par contre, les jeunes qui sont en errance sont quand même souvent dans une grande souffrance. C'est la souffrance qui les a amenés à une rupture radicale avec leur famille et l'école. Mais quand on est en souffrance, généralement, on désinvestit l'école. Hein. On n'est pas disponible pour suivre les cours, pour... Donc très souvent, l'une des conséquences de ce qu'on appelle les conduites à risque, c'est la déscolarisation. C'est donc hypothéquer son avenir en ayant des diplômes qui vont être à minima dans une société incroyablement compétitive où il faut vraiment avoir au minimum le bac d'une certaine manière, ou en tous les cas des CAP dans des domaines où il y a du boulot.
Et dernière question, est-ce que vous avez choisi ce métier d'écrivain pour avoir la chance de pouvoir disparaître, puis revenir, le raconter et en vivre?
Oui, mais ça c'est une très bonne question, mais c'est absolument vrai. C'est vrai que quand j'étais petit et que je me sentais incroyablement mal dans ma peau, sans vraie raison d'ailleurs, parce que mes parents étaient absolument présents, aimants, etc. Mais bon, je me sentais complètement au porte-à-faux. Et je rêvais d'être écrivain, absolument. Je rêvais de Jack London, j'avais des rêves à 10 ans, je me voyais me passager clandestin dans des paquebots... qui m'emmènerait en Amérique latine ou ailleurs. Mais j'ai attendu plus longtemps pour partir concrètement. Mais c'est un rêve qui m'a longtemps obsédé vraiment, qui m'a sans doute permis de tenir le coup d'ailleurs. Et je me disais, je serai écrivain. Et puis finalement, quand je suis revenu du Brésil, mon premier livre d'ailleurs, c'était un roman, c'était La danse amazonienne, et aux éditions Cyros. Et puis après, bon, j'ai été pris par d'autres choses, notamment par la sociologie, et puis j'ai continué plutôt à écrire des livres de sociologie, d'anthropologie, parce que l'écriture, le voyage me permettaient de disparaître à ma guise, de façon plus heureuse que quand j'étais ado.
Bonsoir. Entre rêver de disparaître et disparaître vraiment, c'est-à-dire toute sa vie rêver de faire par exemple comme vous avez fait, partir en voyage et tout laisser derrière soi, ou rêver de le faire, est-ce qu'il y a une différence psychologiquement parlant dans ces deux des choix, s'il vous plaît?
Je ne sais pas là... Je ne sais pas bien comment répondre à votre question. Je crois qu'en effet, on est nombreux à rêver d'un autre monde, d'une autre vie, etc. Je pense que pour beaucoup de gens, ça leur permet de tenir le coup. Il y a un apologue zen qui s'interroge sur un miséreux qui rêve toutes les nuits qu'il est empereur, et puis un empereur qui rêve toutes les nuits qu'il est un miséreux. Et je crois que la question est de savoir qui est le plus heureux des deux. Voilà. Je crois que le rêve, en effet, l'imaginaire est une forme de compensation d'un mal de vivre, et on peut être un grand rêveur. Et puis de toute façon, le rêve se transmet. Généralement, les gens qui sont des grands rêveurs transmettent à leurs enfants, à leurs petits-enfants ou à des gens qui sont autour d'eux, les font rêver à leur tour. Et puis il y en a un qui va prendre le rêve à pleine main et qui va le réaliser pour de vrai, en quelque sorte. Voilà. Mais je pense que souvent, l'imaginaire est en effet une manière de tenir le coup. C'est une forme de résistance, voire même de résilience, qui permet de mieux accepter son sort. Mais notre existence est toujours doublée d'une existence imaginaire, je crois. Voilà. Je crois que c'est vraiment une donnée anthropologique. Et l'anthropologie ne prend en compte que l'homme... actif, conscient, etc. Mais il y a cette immense part de nous-mêmes où on est dans nos rêves, où on regarde des visages dans la rue, on imagine des tas de trucs, on imagine la vie de la personne, où on imagine l'homme ou la femme qu'on aurait pu être, etc. Je crois que la rêverie est absolument permanente, mais n'a pas fait le... Il y a Anselm Strauss, le sociologue américain, qui lui a consacré quelques pages, mais il y a très très peu de choses sur ce dédoublement de chacun de nous à travers nos rêves, nos fantasmes, nos imaginaires. Pourtant, notre imaginaire ne s'arrête jamais. Et même la nuit, on pourrait dire même qu'on est davantage des hommes ou des femmes du rêve. Chaque nuit, on entre dans un autre monde pendant 8 heures au moins. Mais on ne fait pas la sociologie de ce monde-là.
Allô ?
Oui, pardon.
Là. Je suis en face de vous, là.
Pardon.
Voilà, je reprends le micro. Oui. Plusieurs choses. Tout d'abord, il y a un thème qui est sous-jacent de ce que vous avez dit, c'est la liberté.
Oui.
La liberté qu'on paye au prix fort.
Oui, c'est ça. Oui.
Je pense, par exemple, à Paul-Émile Victor, qui s'est isolé sur le récif de Bora Bora.
J'ai pas entendu le
Paul-Émile Victor.
Paul-Émile Victor.
A passé une partie de sa vie sur le récif de Bora Bora,
oui, oui.
Dans un endroit paradisiaque. Mmh. Et il a payé... excusez-moi, j'ai une extinction de voix. Il a payé le prix fort parce qu'il était soumis à des aléas climatiques, par exemple.
Oui, oui.
Donc il y a toujours ce rapport à la nature.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, on connaît tous, en termes de référence, un film qui s'appelle Le Sauvage avec Yves Bontemps.
Oui, oui, oui.
Mmh. Voilà. Pour ajouter aux références, il y a aussi le film Éloge de la, le livre pardon, Éloge de la fuite.
De Laborit.
Oui. Oui. Mais non, je voulais aussi rajouter un propos critique à ce que vous dites. Quand vous dites que partir d'Alzheimer, c'est partir tout doucement et que c'est plus facile, c'est quand même un propos violent à entendre.
Oui. Mmh,
et je vous invite à un peu de retenue, dans la mesure où vous avez une tribune, parce que c'est violent d'entendre ça.
Oui.
Et c'est un propos qui n'engage que le médecin que vous n'êtes pas.
Mmh.
Voilà, si vous permettez une critique. Voilà. Sinon, sociologiquement, oui. c'est intéressant, mais en dehors de vos propos sociologiques, je ne partage pas votre point de vue.
Voilà. Oui, non, vous avez raison de ne pas les partager, voilà. D'ailleurs, parce que je sais que c'est une immense souffrance que d'accompagner des personnes à Alzheimer. Il y a d'ailleurs toute une littérature sur le sujet. Ceci dit, le fait que j'analyse de cette manière-là, Alzheimer ne change rien, parce qu'on peut dire aussi que sans doute on est quelque part responsable des pathologies qu'on a, du cancer qu'on a. Oui, mais ça ne veut absolument pas dire qu'on est fautif ou qu'on le fait exprès et autres. C'est que il y a quand même un statut de la conscience qui n'a rien à voir avec le fait de décider, par exemple, de devenir Alzheimer. Je crois qu'on ne le décide absolument pas, mais qu'il y a des logiques qui vont précipiter la personne, enfin pas la précipiter, mais l'amener tout doucement à cela. Mais je comprends très bien que ça puisse faire mal d'entendre le propos que je disais. Par contre, je me reconnais moins dans le livre de Henri Laborit. Bon, Laborit, pour moi, il est un peu trop biologisant, même si c'est un personnage sympathique par ailleurs. Mais pour moi, je ne vois pas la disparition de soi comme une fuite, parce que la fuite est un jugement de valeur, et j'essaie de ne pas trop faire de jugement de valeur, même si c'est souvent impossible de le faire, mais je vois plutôt la disparition de soi comme une forme d'expérimentation finalement sur soi. Et puis à d'autres moments, le fait de se reprendre, puisqu'on est toujours obligé de se donner aux autres, il y a un moment où on se reprend. Comme disait d'ailleurs merveilleusement Montaigne, chacun d'entre nous devrait se garder une arrière-boutique, il dit. Une arrière-boutique où l'on puisse se réfugier à un certain moment. Et Montaigne disait aussi, il faut se prêter aux autres et ne se donner qu'à soi-même. Ce qui est une très très bonne manière, parce qu'on ne peut pas, même quand on est dans l'accompagnement, quand on fait un travail de médecin profondément engagé ou autre, on ne peut pas toujours se donner. Vous savez bien qu'on finit par s'épuiser complètement, et du coup on démolit aussi les autres qu'on aidait, parce qu'on tout d'un coup on n'est absolument plus disponible, parce qu'on est soi-même devenu dépressif ou autre. Donc il faut savoir rester sur la ligne où à la fois on est là, mais où on se protège. On a ses arrières. On ménage ses arrières. Je crois qu'il faut toujours ménager ses arrières. Et puis, vous m'avez évoqué, j'aurais pu le citer tout à l'heure, par rapport à La Blancheur, c'est le très beau film de Sean Penn, dont le titre, évidemment, redites-moi, Into the Wild. Voilà, qui est l'objet aussi d'un très très beau livre d'un auteur américain. Redites-moi son nom. Non, voilà, c'est vraiment, c'est une avalanche d'oubli ce soir. Mais un très beau livre d'un auteur qui s'est reconnu dans le personnage de Chris McCandless, je crois, parce que lui-même a essayé de disparaître quand il était plus jeune, disparaître dans le wilderness, parce que là on est vraiment dans les thématiques américaines extrêmement puissantes, hein, on est un peu chez Soro, mais dans le contexte de la fin du XXe siècle. Donc Chris McCandless va vouloir disparaître lui aussi dans le wilderness, mais va se perdre dans la blancheur dans tous les sens du terme, parce qu'il a, à un moment donné, il déchire ses papiers d'identité, vous vous souvenez, dans le film il déchire l'argent même, et puis lui, il s'efface complètement, mais il finit par s'effacer dans la blancheur de la neige et par mourir. Mais rappelez-vous aussi que le moment où il meurt est le moment où il veut revenir. Et d'ailleurs, il signe à ce moment-là Chris. alors qu'avant il s'appelait Alexander Supertramp. Voilà, une manière de brouiller les pistes pour que personne ne sache où il est passé, et au moment où il sent la mort approcher, il redevient lui-même, enfin il reprend son identité ancienne. C'est sur le plan de la modernité, c'est vraiment un film et un livre exemplaire, je pense, sur la difficulté d'être soi dans nos sociétés contemporaines. Oui.
Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que c'est qui vous fait faire un peu l'amalgame entre disparition et identité, et quand vous parlez par exemple de Murakami et de Yoko Ogawa, qu'est-ce que c'est qui vous fait faire l'amalgame peut-être entre perte d'identité ou disparition ou effacement plutôt?
Parce que les personnages de Ogawa ou de Murakami sont des personnages qui sont évanescents d'une certaine manière, qui n'ont pas une biographie en termes d'état civil. Voilà, donc c'est pas un amalgame, et c'est pas une perte non plus. J'ai jamais parlé de perte d'identité, parce que je me suis toujours battu contre les jugements de valeur, notamment dans l'univers de la psychiatrie ou autre, où on décrit d'ailleurs souvent les personnes Alzheimer comme manquant de tel ou tel truc, les autistes comme incapables de parler, etc. Ce sont des termes, moi ça m'a toujours un peu gêné. Peut-être par là, je suis profondément anthropologue, parce que je pense qu'il faut de tout pour faire un monde, qu'il y a des milliers de manières d'exister et que nous n'avons pas à juger. D'une certaine manière, on peut après tout choisir, entre guillemets, l'autisme, la psychose ou autre. Bon, même s'il faut essayer évidemment de sortir ces personnes, essayer de les ramener à nous, essayer de les convaincre que le lien social mérite quand même qu'on s'y attache. Mais si on n'y arrive pas, notre devoir est de les protéger, de leur rendre la vie plus facile d'une certaine manière. Voilà. Donc j'évite les jugements de valeur en termes de perte, de manque, etc. Enfin, j'essaie, peut-être que de temps en temps ça m'échappe complètement, mais... Voilà, donc c'est pas non plus un amalgame. Et vous voyez que la notion d'identité que je défends n'est pas du tout celle de Descartes, hein, on est bien d'accord. Descartes, c'est je pense, donc je suis, donc je serai complètement transparent à moi-même. Non, il faut ouvrir la notion d'identité à l'abîme de l'inconscient et au fait que chacun d'entre nous contient des hommes et des femmes que nous n'aurons jamais l'occasion de connaître, parce que les circonstances ne nous ont pas mis en face ne nous ont pas autorisés à nous révéler pour le meilleur ou pour le pire. D'ailleurs, voilà. Mais nous sommes incroyablement multiples les uns et les autres. Et c'est ça qui me fascine en tant qu'anthropologue, d'une certaine manière. Et là, ce qui m'a fasciné, c'est cette image où on peut refuser, d'une certaine manière, le lien social. S'épargner, enfin, s'alléger des contraintes de l'identité, en tous les cas. Éventuellement pour essayer d'en retrouver une autre ou pour passer inaperçu. C'est plus d'ailleurs passer inaperçu qui me fascine dans le livre, en tous les cas. Oui. Les psychoses peuvent-elles être considérées comme une forme de disparition de soi? Oui, moi je pense, oui. Oui, l'autisme, la psychose sont des manières finalement balisées à l'intérieur de nos sociétés pour disparaître. Dans d'autres sociétés, ce sera autre chose. Mais oui, je crois profondément ça, oui.
Oui.
Je vois monsieur qui s'impatiente là-bas. Allez-y. Si vous pouvez parler très fort, mais... Oui. 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 Ah oui. Oui. D'accord. Oui. 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 Bien sûr. Oui. 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 Non, pas du tout. D'ailleurs, je cite longuement Moby Dick. Je ne vous ai pas expliqué pourquoi j'avais choisi le mot blancheur. C'est un mot de mon vocabulaire. Vous ne trouverez pas ça dans les dictionnaires de psychiatrie ou autre. Le terme blancheur m'avait arrêté au début des années 90 parce qu'on dit parfois « c'est un blanc dans ma vie ». Par exemple, quand on dit « je ne sais pas très bien ce qui s'est passé » ou « j'ai eu un blanc, je ne savais plus quoi dire, quoi faire, etc. » C'est l'idée de la page blanche également. Mais il y avait en amont Moby Dick et le très long chapitre que Herman Melville consacre à la notion de blancheur, où il en pointe l'ambivalence. Il dit que la blancheur, c'est une couleur absolument magnifique, et à d'autres moments, il dit que c'est une couleur où l'on se perd, etc. Et puis la baleine blanche, c'est à la fois l'objet d'une quête, mais en même temps l'objet d'une disparition, l'objet de la mort, en tous les cas, du capitaine Ahab, et même de son équipage, sauf du dernier survivant. Voilà. Donc il y a un lien avec cette... Alors la notion de... Pour moi, la disparition, elle est polysémique. C'est-à-dire qu'on peut disparaître pour passer inaperçu, comme je disais tout à l'heure. On peut disparaître pour se recréer ailleurs, pour se réinventer ailleurs. Et dans ce cas, peut-être que la notion de quête pourra apparaître. Mais pour moi, c'est un petit peu... C'est un autre thème, d'une certaine manière. C'est un thème qui me hante pas mal. Hein. Je crois que ce que j'ai écrit sur la marche, il y a souvent cette thématique d'un parcours initiatique, d'un parcours de renaissance... etc. Mais là, c'était moins au cœur de mon travail quand même. Mais vous avez raison de dire que dans le voyage, il y a souvent une quête. Oui. 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 Oui, les personnages de Murakami qui perdent leur ombre. Moi non plus, je me rappelle plus dans lequel de ces romans, mais oui, 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 oui. Oui. Allez-y.
Vous avez travaillé sur la peau, cette interface sociale, relationnelle, sur le corps, la douleur, les sensations peut-être, après je ne sais pas.
Les perceptions,
Les perceptions. Je me demandais, est-ce que, avant de disparaître, ou en même temps de disparaître comme ça, est-ce qu'il n'y a pas une disparition à son propre corps? Qu'en pensez-vous?
Ça dépend ce que vous entendez par là, parce que oui.
Perdre contact avec notre façon d'habiter notre corps, notre façon de sentir notre corps, d'accord. Notre façon de l'utiliser de clivage, éventuellement.
Oui, on serait dans le clivage alors. Oui, c'est une figure qu'on rencontre souvent chez les personnes sans abri, par exemple, qui ont des caries plein la bouche, qui ont des pathologies cutanées partout, et qui vous disent non, je ne veux pas, qui ont parfois des bras cassés, des jambes cassées, etc., et qui ne veulent absolument pas être soignées. Et elles vous disent mon corps, c'est pas moi. Mon corps, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas mal. C'est mon corps qui a mal, mais ça ne me concerne pas. Alors là, on est dans des formes de clivage, hein, de différenciation, qui pour moi renvoie à des contextes de grande souffrance personnelle dans la plupart des cas. Enfin, j'ai l'impression dans la quasi-totalité des cas.
Ou même l'écrivain, hein, qui va avoir une activité plus intellectuelle qu'une activité sportive ou physique. Oui. Je ne sais pas si des bûcherons s'amusent à disparaître, si vous voyez l'image.
Ben là, beaucoup d'écrivains vont quand même courir, nager, etc. Je le dis souvent que nos activités intellectuelles sont des activités éminemment physiques et sportives. Sinon, on ne tient pas la route. Il faut écrire, sinon on est des sédentaires et donc on en pâtit forcément d'une manière ou d'une autre. Donc je crois que quand on donne des cours, quand on a des enseignements, quand on écrit, quand on mène des recherches, il faut aussi avoir se lancer dans des exercices physiques pour également rappeler nous-mêmes que nous sommes vivants, que nous sommes réels, que le monde autour de nous existe. Donc il y a pas forcément un intellectuel n'est pas forcément un homme qui plane entre guillemets, pour prendre des vieilles images, et un bûcheron n'est pas uniquement un homme qui cogne dans les branches. Il y a aussi des bûcherons, sans doute, qui écrivent des livres ou qui font des... Regardez, il y a un personnage de Henning Mankell qui fait des sculptures absolument prodigieuses, tout en passant, et qui est bûcheron. Son métier, c'est de couper les arbres dans les forêts suédoises, et il fait des sculptures absolument sublimes. On ne peut pas dire donc qu'il n'y a pas d'activité créatrice du côté du bûcheron, et non plus qu'il n'y a pas d'activité physique du côté d'un intellectuel ou d'un enseignant ou autre. Ce serait là un clivage fâcheux, à mon avis, en tout cas.
Et le défaut des images, hein, mais je vous demandais voilà, s'il n'y a pas une disparition à son propre corps, peut-être avant ou en même temps de disparaître.
Je ne crois pas. En plus, on pourrait dire que l'écriture est une manière de vivifier des tonnes d'expériences différentes. Quoi. Quand vous écrivez un roman, vous incarnez dans plusieurs personnages. Comme disait Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, voilà. Et donc, d'ailleurs, Flaubert écrivait à sa compagne quand il écrivait la mort par empoisonnement d'Emma, lui-même, il avait des tas de vomissements, il était en grande souffrance. Il vivait son personnage par corps. Moi, j'ai l'impression que c'est souvent ce qui m'arrive d'une certaine manière. Et en tous les cas, beaucoup d'écrivains sont dans cette espèce de transe où ils vivent intensément les drames de leurs personnages. Et nous-mêmes, d'ailleurs, en tant que lecteurs, on peut dire parfois, il y a des gens qui le disent, la mort de tel ou tel personnage. Moi, je me rappelle du choc que j'ai éprouvé à la fin dans l'un des derniers manquels, L'homme inquiet, par exemple, justement sur les dernières pages, m'ont absolument saisi. Enfin, les dernières lignes, je veux dire. Ça arrive de façon tellement fulgurante qu'on s'y attend pas. Et on reste le livre en main, on regarde qui est autour de nous pour dire « il vient de m'arriver un truc absolument terrible, on vient de perdre son personnage ». Et d'une façon tragique, puisque c'est Alzheimer. Donc voilà, les personnages de fiction sont des personnages bien vivants aussi, d'une certaine manière.
Société occidentale.
Est-ce qu'on peut considérer que dans certaines circonstances, la disparition de soi serait une façon de reculer pour mieux sauter, pour se préparer à mieux réapparaître à soi, un peu comme une respiration avec un inspire et une expire?
Oui, là, nous sommes complètement d'accord. C'est la figure, à mon avis, la plus courante de la disparition. C'est celle qui est notre tentation, la plupart d'entre nous. C'est-à-dire disparaître pour reprendre son souffle, se retrouver. On dit vulgairement recharger ses batteries. Oui.
Juste dire, il y a un mythe derrière tout ça aussi, un peu valorisé, de l'artiste maudit par exemple, ou de l'ermite. Enfin, je sais pas, il y a des figures, des archétypes comme ça qui nourrissent quand même ces identités possibles.
Oui, c'est sans doute qu'il y a des mythes. Là, j'avoue que c'est pas ça du tout qui m'intéressait. Là, non. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt la concrétude du monde et le fait que, de manière très tangible, on voit autour de nous des gens qui disparaissent, pour le meilleur ou pour le pire, ou bien l'histoire de la littérature, ou les biographies d'artistes qu'on aime, etc. C'est plutôt ça qui m'a intéressé. Oui. Oui, ça fait partie sans doute des figures de la disparition. Là, vous m'avez évoqué le titre de David Riesman, un classique de la sociologie américaine, La foule solitaire, ou le dernier livre de Sheritor Cole qui s'appelle Seul ensemble, qui est une magnifique définition du lien social aujourd'hui. On est en effet seul ensemble. C'est ça qui caractérise l'individualisme dans une société. Voilà. Et sinon, il y a effectivement, je crois qu'il existe ce moment où on a envie les uns et les autres de se retirer d'un groupe, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien avec les autres. Moi, c'est une figure qui m'avait d'ailleurs fasciné chez Jean Reverzy, l'écrivain lyonnais Jean Reverzy, et qui en parle d'ailleurs à un moment donné. Il explique un peu ça, qu'il y a un moment donné, même quand on est dans une très forte relation d'amitié, dans un repas avec des amis, il y a un moment où on sent qu'il est temps de partir, parce que finalement, progressivement, on va arriver à l'ennui. Et voilà. Charles Julliez, d'ailleurs, a aussi ressenti très très fort tous ces moments-là. Oui, donc je suis d'accord avec vous. Et quand on s'en va, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'indifférence de ses amis. Ça veut dire qu'on les emmène avec soi, mais maintenant on a besoin de se retrouver seul. On s'est nourri d'eux pendant des heures et ça a été merveilleux. Maintenant, il faut se retrouver chacun dans son histoire propre pour avoir le plaisir de se retrouver plus tard avec d'autres choses à se raconter. Mais je crois qu'il faut, c'est ce que je dis souvent, il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Voilà, s'arrêter dans la frustration plutôt que dans la saturation. Voilà. Et c'est souvent ce qui se passe dans les mondanités où là, effectivement, on sait pas quand on a peur de s'en aller les premiers, etc.
Merci beaucoup.